Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment, 14e épisode, aujourd'hui 14e épisode, et c'est la première fois qu'on va reparler d'un réalisateur dont j'ai déjà parlé précédemment dans le podcast. Effectivement, lors du 3e épisode, j'avais parlé d'Irréversible de Gaspard Noé, mais bon, il faut peut-être que je vous le dise maintenant, Gaspard Noé est mon réalisateur préféré, donc c'était pas étonnant de le revoir, et le monsieur sortait un nouveau film, du coup, en cette année 2022, un film qu'on attendait énormément, parce que ça fait déjà peut-être un an et demi, deux ans qu'il doit sortir, et ce film, c'est Vortex.
Moi, je jette pas mon passé.
Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus.
Voilà, c'est une intro courte, succincte, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, je sais pas combien de temps ça va durer, donc je préfère accélérer le pas et commencer directement d'emblée, on rentre dans le vif du sujet. Vortex, c'est quoi, vous allez me dire? Vortex, ça raconte l'histoire d'un couple âgé qui vit dans un appartement parisien, submergé de livres et de souvenirs. Lui, donc, c'est un cinéphile, il est historien, théoricien du cinéma, et il est en train d'écrire un ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. On se demande même si des fois c'est pas un peu son propre rôle qui joue dans le film, et elle est psychanalyste à la retraite, et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Amoureux et indispensables l'un à l'autre, ils vont vivre leur dernier jour. Voilà, donc, on comprend dès le départ, en fait, que c'est un film qui va traiter des maladies mentales. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on parle de personnes âgées, de sénilité, et on a ce titre, donc Vortex, qui est assez évocateur, qui présente un peu un espèce de tourbillon. Et on a aussi cette phrase au début du film qui dit « À tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur ». Le film est brillantissime, voilà. Le film est brillantissime. Je l'ai vu au cinéma, et je n'en suis pas ressorti indemne. Très honnêtement, Vortex, c'est pas un film que je reverrai de sitôt, je pense, parce que c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Mais Vortex, c'est un film exceptionnel que je vous encourage vraiment à découvrir au cinéma. Parce que c'est Gaspard Noé, que les films de Gaspard Noé, c'est toujours mieux au cinéma. Et Vortex, c'est une expérience, voilà, on dit ça pour tous les films de Gaspard Noé, j'ai l'impression, mais Vortex, c'est vraiment une expérience à part entière. C'est le film le plus singulier, je trouve, de la filmographie de Gaspard Noé. Parce qu'il tente des choses assez différentes, des choses qui marche. J'aimerais revenir tout d'abord sur les 30 premières minutes du film, qui représentent à peu près une séquence, voilà, en gros, du film où ça joue la suite. C'est pas un plan séquence vu qu'il y a des cuts, mais ça représente vraiment toute une séquence du film, tout un moment qui se déroule sans qu'il y ait d'ellipse, etc. Et on a vraiment une scène qui est assez déconcertante où, en gros, le couple se réveille, voilà, se lève d'une journée, et on observe, en fait, qu'il y a vraiment un décalage entre les deux personnages, parce que c'est d'abord la femme qui se lève, qui va aux toilettes, ensuite l'homme se réveille, mais tous beaucoup, et reste dans le lit. Et donc, on a vraiment donc la femme qui commence sa journée, qui fait tous ses trucs, et l'homme qui se réveille juste après. Et ce qui est très bizarre, c'est que, en fait, ils se croisent, mais ils se parlent pas. C'est un couple, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de proximité entre eux, de tendresse. Voilà, c'est juste deux personnes qui font leur vie, quoi, qui dépendent pas forcément de l'autre. Encore qu'on observe quand même que la femme a une attention particulière pour son mari, vu qu'elle lui prépare le café. On ne la voit pas, elle boit du café, mais elle met en route la machine, etc. Et on observe que c'est un appartement qui est assez... comment on pourrait dire ça? Pas vétuste, mais... voilà, les installations ne sont pas modernes, quoi. On a encore les plaques avec le gaz, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le décor est vraiment calqué sur les personnages, et pas que le décor, en fait. Il y a beaucoup de choses dans le film qui sont calquées sur les personnages, et je pense notamment au style, avec donc l'image qui est assez... je dirais pas vieille, mais elle est très claire. On a vraiment l'impression d'être dans un monde de vieux, quoi, j'ai envie de dire, avec ses couleurs, les couleurs qui... Quelque chose qui est très important, justement, c'est que dans le cinéma de Gaspard Noé, on a toujours des couleurs un peu vives, des couleurs un peu qui agressent la rétine, et là on a vraiment des couleurs très douces, bah, qui sont au final très proches de nous, alors que le cinéma de Gaspard Noé, c'est souvent des couleurs, ouais, assez vives, assez fluo. On pense, bah, moi je pense à Enter the Void notamment, je pense à Climax, voilà, à Lux Eterna récemment, et on a ces couleurs donc qui sont très douces, très calmes, et donc ça contraste totalement avec le reste de son cinéma, et donc, c'est un exercice de style assez à part en dire vis-à-vis de ce qu'il a fait jusqu'à présent, mais c'est un exercice de style qui marche. Et aussi, pour revenir, donc une technique qui est calquée sur les personnages, on a vraiment le rythme du film qui est long et lent. Voilà, donc ça colle un peu au rythme de vie d'un couple de petits vieux, j'ai envie de dire. Et aussi, au niveau du rythme, je pense qu'il y a vraiment une volonté que ce soit une épreuve pour le spectateur, voilà, que ce soit quelque chose de très éprouvant, parce que le film est très long et très lent, notamment c'est cette scène des 30 premières minutes dont j'ai parlé, où on a vraiment tous les personnages font tour à tour des choses, et voilà, on sent qu'ils mettent du du temps à y aller, que c'est compliqué pour eux de se déplacer, de faire certaines actions, etc. Et on sent l'âge, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, on sent vraiment l'âge dans les personnages. Et c'est plutôt bien retransmis, j'ai l'impression, à l'écran. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive facilement à cartographier l'appartement. C'est très très efficace, et en l'espace de quelques minutes. J'ai pas envie de dire que c'est un huis clos, parce que bon, les actions des fois se passent à l'extérieur, mais on reste beaucoup dans l'appartement du couple. C'est très très important, quand on reste beaucoup dans un lieu, dans un film, qu'on puisse le cartographier hyper facilement, de se dire genre, bah tiens, le salon est juste à côté de la cuisine, qui est juste à côté de la chambre, qui est juste à côté de machin, etc. Et là, c'est hyper bien cartographié, et justement, notamment, grâce à la scène des 30 premières minutes, où en fait, on a la femme et l'homme qui se baladent dans toutes les pièces de l'appartement. Donc d'abord, la femme qui va à la cuisine, pour ensuite aller au salon, il y a l'homme qui va dans la salle de bain, puis il va aussi donc dans son bureau, elle aussi, on a l'impression qu'il y a un deuxième bureau. Voilà, on arrive très facilement à cartographier l'appartement, et c'est hyper intéressant. Un autre détail technique sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est très très bien éclairé. Voilà, ça revient aussi un peu à ce que je disais au niveau des couleurs. On a des couleurs très douces, très claires, et bah c'est notamment aussi dû à l'éclairage qui est plutôt très bon. Et c'est important à notifier dans un film de Gaspard Noé, parce que c'est pas toujours le cas, mais là c'était vraiment très bien réussi. Et un autre détail dont je voulais parler, c'est la musique. Moi, la musique en soi du film ne m'a pas marqué, mais juste cette intro avec le clip de Françoise Hardy sur Mon ami la rose, ça impacte. Je saurais pas comment dire, mais ça impacte de par les paroles et de par la mélodie, et voilà, on a cet instant très calme, et ouais, c'est un peu le repos avant de se prendre le parpaing, et c'est très doux, c'est très mélodieux, c'est très, très majestueux. Pour terminer un peu sur la technique, j'aimerais parler énormément du format, parce que bah, c'est ce qui est le plus important dans la technique du film, j'ai l'impression. Nous avons deux écrans interposés, et c'est pas pour nous rappeler Lux Eterna, qui utilisait déjà ce principe d'avoir plusieurs écrans interposés. Moi, j'avais pas été très fan de Lux Eterna dans le storytelling, je dirais, après dans la technique, dans l'acting, ça oui, forcément, bien évidemment, et dans la réal aussi, de Gaspard Noé, mais oui, c'était plutôt dans le scénario, voilà, j'étais un peu paumé, et au niveau, oui, de certains aspects techniques, notamment bon, la couleur à la fin, faut pas être épileptique, ça je me le répète à Gaspard Noé, mais alors là, Lux Eterna, ça n'a jamais été autant vérifié. Et là, du coup, on a donc deux écrans interposés, donc pour nous rappeler Lux Eterna, et faut savoir en fait que Gaspard Noé joue beaucoup avec son format dans le film, c'est-à-dire que des fois, on a des symétrismes au niveau des plans, donc moi, je pense notamment à la scène à table, où on a d'un côté Kiki et Dario Argento, donc Kiki qui est le petit-fils du couple, et de l'autre côté, donc le fils du couple, joué par Alex Lutz, et la mère, voilà, ça c'est plutôt une scène très jolie, ou aussi une autre scène quand ils sont dans le lit, voilà, où le fils parle à la mère, et voilà, c'est des plans assez symétriques, que je trouve très jolis et très bien faits au vu du format utilisé, et moi ce que j'aime bien aussi, c'est cet aspect de, il y a plusieurs angles de vue pour une même scène, je pense notamment bah, à la fin de la scène, fin de la toute première séquence, où voilà, Dario Argento reprend avec lui sa femme pour rentrer à leur appartement, voilà, on a l'impression qu'il y a plusieurs angles de vue, et ça fait un peu un esprit paparazzi, mais je reviendrai sur cet aspect-là un peu plus tard dans ma chronique pour vous expliquer un peu ce que ça m'inspire. Ce que j'aime beaucoup aussi dans Vortex, c'est que, encore une fois, Noé assume pleinement ses influences. Elles sont très marquées, hein. Donc déjà on a la présence de Dario Argento, bien évidemment, qui est l'un des plus grands réalisateurs des années 70-80 italiens. Beaucoup disent que c'est un réalisateur de giallo, beaucoup disent que non. Je ne rentrerai pas dans le débat, je vous dirai juste que les films de Dario Argento sont à voir parce qu'ils sont sublimes. Moi je vous conseille notamment, bien évidemment, le fameux Suspiria, mais aussi 4 mouches de velours gris, qui sont des films magnifiques. Pour revenir aux influences de Noé, on a aussi deux affiches de Metropolis. Moi j'en ai vu deux, j'en ai vu une dans le salon et une dans le bureau de Dario Argento. Voilà, donc Metropolis qui est un film très important pour Noé. Il me semble pas que ce soit la première référence dans sa cinématographie. Voilà, on a aussi le film en noir et blanc à la télé, donc qui est sûrement issu de la période impressionniste allemande des années 20, qui est encore une fois bah, une très grosse influence de Noé avec, bah, comme je l'ai dit plus tôt, Metropolis. Donc voilà, j'aime beaucoup cet aspect de la cinématographie de Gaspard Noé, de vouloir mettre en avant le cinéma, mettre en avant ses influences, ce qu'il aime dans le cinéma. Et on a une grande volonté de parler de cinéma dans le cinéma de Gaspard Noé. Donc voilà, on a par exemple dans le film là l'homme qui écrit donc sur le sujet, c'est le sujet du livre qu'il veut écrire, voilà, il est théoricien, il cherche à écrire un livre sur les rêves et le cinéma, donc c'est son métier, hein. Donc voilà ce que je disais plus tôt, on se demande même si Dario Argento il ne joue pas son propre rôle, et on a la présence, moi j'ai noté notamment la présence de Philippe Rouillet, donc un journaliste cinéma assez important dans le paysage cinématographique français, et il y a des multiples références, donc voilà, il y a vraiment une volonté de parler de cinéma, quoi. Et on a aussi, bah, si je veux citer encore un autre détail, je sais pas si ça un grand lien, mais voilà, le fils est intermittent, voilà, donc on touche au métier de la culture, quoi, et c'est quelque chose de très important dans le cinéma de Gaspard Noé. On a aussi une volonté de mélanger la fiction et le réel. Moi, je pense notamment donc, à une scène du tout début, enfin une scène, c'est-à-dire un écran, avec donc des photos des acteurs pour les présenter avec leur date de naissance. Comme si les personnes qui étaient dans le film incarnaient leur propre rôle, et notamment à la fin, voilà, donc on a leur date de naissance et leur date de mort, qui sont toutes les deux à 2020. Voilà, donc c'est plutôt un truc que j'aime beaucoup. Ça, parce que c'est le film joue beaucoup dessus, j'ai l'impression, du début à la fin. Et même moi, je me posais la question, en fait, tout au long du film, et c'est plutôt brillamment mené. Le traitement est absolument bienveillant de la caméra envers ces personnages. Voilà, on a vraiment une certaine douceur, on cherche pas à les montrer de manière « Oh, regardez, ils sont vieux, ils sont séniles et tout, etc. » Au contraire, on cherche à montrer toute la douceur, toute la peine. On cherche pas la pitié non plus. On cherche vraiment juste à présenter la vie d'un couple qui a du mal à vivre, mais qui tient la barre quand même, qui continue malgré tout. Et voilà, la position du fils qui cherche à tout faire pour aider ses parents, voilà, qui cherche à élever lui-même son propre fils comme il peut, qui essaye de gérer un peu du coup les deux bouts. Voilà, on sait aussi que sa femme a des problèmes mentaux, on le comprend à un certain moment du film. Donc voilà, il y a un vrai traitement bienveillant de la part de la caméra envers ses personnages. Et ça m'a rappelé un peu à certains moments le film Amour de Michael Haneke, qui est sorti il y a quelques années. Voilà, où on avait aussi le récit d'un couple de personnes âgées. Et voilà, c'est quelque chose de très marquant et qui m'a titillé. Ensuite, je voulais revenir sur un truc que j'ai dit précédemment. On a un profond sentiment de malaise, j'ai l'impression, par contre, devant le film. Avec, je vous parlais du coup, cet aspect paparazzi. J'ai l'impression qu'il y a un profond sentiment de voyeurisme qui est assez malsain. Voilà, on entend tout ce que fait le couple, donc toutes les actions, on entend le vide en même temps, on a vraiment l'impression en fait d'être dans la pièce et d'être là, les regarder et juste bah rien faire, et c'est assez malsain, ça met assez mal à l'aise, et je sais que Gaspard Noé est quelqu'un qui aime mettre son public mal à l'aise, et c'est quelque chose qui réussit encore une fois ici, donc c'est tout à fait remarquable. Je voulais parler d'une autre scène aussi, donc qui est une vraie scène de tension pour rester sur le public mal à l'aise, où c'est une scène où il est 2h39 et on pense sincèrement que l'homme va mourir. On a 4 minutes de torture où il a du mal à respirer, il se lève, il tombe, et là on se dit ouais, il va mourir en plein milieu de son salon, et on est en train d'assister à ça. Quand on voit que dans Irréversible Gaspard Noé était capable de filmer une scène de viol, on se dit que bah, il est capable de filmer une scène de mort imminente et de torture respiratoire, et il le fait. Après, c'est un ascenseur émotionnel, parce que je spoil le film, voilà, je n'ai aucune vergogne dans cette chronique.
Quelle indignité.
Mais voilà, on a un vrai ascenseur émotionnel, parce que du coup il ne va pas décéder, on va l'emmener à l'hôpital. Du coup, le lendemain matin, sa femme le retrouve et appelle son fils et il va à l'hôpital, mais à l'hôpital il décède, et on a l'une des meilleures idées du film, je trouve, qui est la mise en scène de la mort des personnages. C'est-à-dire qu'on a un écran qui se blanchit en fait au niveau des personnages, voilà, on a un plan sur leur tête hein, avec un écran qui se blanchit, et ensuite un drap qui fait, on a une transition avec un drap qui le recouvre, et donc ils sont décédés. Mais voilà, c'est cette mise en scène, je la trouve magnifique, elle est, comment dire, elle est majestueuse, soignée, pleine de grâce, mais elle en reste tout de même très percutante. Ça choque un peu le spectateur, même si on l'attend, du coup, quand on comprend en fait quand l'écran se blanchit que ça va arriver, mais le fait que ça arrive, ça rajoute encore un peu plus de choc, et je trouve ça très fort. Et donc c'est une mise en scène qui sera utilisée donc pour la mort de l'homme et pour la mort de la mère, et c'est splendide, vraiment c'est l'une des meilleures idées que j'ai pu voir dans le cinéma de Gaspard Noé. Un autre détail du coup, donc après la mort de l'homme, il n'y a plus qu'un écran, et j'aime bien parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la représentation du vide qu'on peut avoir après la perte d'un être aimé. Et on voit la femme donc qui est totalement perdue, qui voilà, ne sait pas quoi faire, sort de son appartement, est raccompagnée par un voisin, etc. Elle est totalement perdue, et voilà, c'est encore bien retranscrit dans le film. Maintenant parlons un peu des personnages que je trouve assez bien caractérisés. On a beaucoup de matière, on a beaucoup de choses sur eux. Voilà, on a les professions, les maladies, le caractère, on sait que le fils il est divorcé, qu'il a été en hôpital psychiatrique, mais on n'a pas de nom pour l'homme et la femme, pour les grands-parents, le couple. Et ça, je trouve ça assez intéressant, justement, parce que ça, encore une fois, ça y a un peu cette barrière entre la fiction et la réalité. Et on a que les prénoms donc de Stéphane, le fils, et de Kiki, donc son fils à lui, donc le petit-fils du couple. Et ça, je trouve ça intéressant, justement, de bien caractériser les personnages, de donner beaucoup d'informations sur eux, mais pas leur nom. Genre, ça nous permet, justement, de se mettre un peu à leur place. François Françoise Lebrun est impériale dans le film, vraiment. Elle livre une prestation qui est folle furieuse. Voilà, je saurais pas comment le décrire autrement. Donnez-lui le César, voilà, j'ai envie de dire ça. Même si on sait que les films de Gaspard Noé sont pas très plébiscités par l'Académie des Césars, mais par pitié, donnez-lui au moins une nomination, donnez-lui le César même, parce qu'elle est incroyable dans le film. Ça faisait longtemps, je pense, qu'une prestation n'avait pas autant touché, et c'est magnifique. Notamment la scène où il y a vraiment une fatalité de son personnage avec des phrases fortes où elle dit ce serait mieux que je sois morte. C'est une phrase qui est aussi soudaine que frappante, que ce soit pour les personnages ou pour le public. Voilà, genre quand on entend ça, on est là, oh, c'est dur, c'est très très dur à vivre. Et il y a aussi d'autres phrases comme faut se débarrasser de moi, voilà, donc ça c'est un peu le dialogue entre les trois. Et ouais, elle joue de manière incroyable, et je sais pas si quelqu'un aurait pu mieux le jouer. En fait, elle est vraiment d'une justesse et d'une perfection dans ce rôle, c'est assez bluffant. Et tous les acteurs en général sont très très bons. Moi je pense à Dario Argento, je pense à Alex Lutz, donc qui sont les deux autres gros acteurs du film qui tiennent très bien la baraque. Moi j'ai un peu de mal avec Alex Lutz généralement, mais c'est vrai que là ça fait deux films que je joue avec lui et où je l'apprécie beaucoup. Donc l'autre d'avant c'était 5ème set, et là voilà, dans Vortex aussi il y a quelque chose de très touchant, quelque chose de très bienveillant, une image très bienveillante envers ses parents. Moi, un truc que je voulais retenir aussi, c'est l'errance des personnages pendant tout le film. C'est quelque chose qui est assez paralysant. Voilà, on les voit errer un peu comme des âmes en peine, à pas savoir trop quoi faire ni où aller, c'est quelque chose qui nous renvoie à nos propres peurs en fait de vieillir. Je trouve ce film fait très peur sur j'ai pas envie de vieillir tout de suite, je suis bien content d'être jeune. Ce film en fait est beau parce qu'il fait peur aussi, c'est un truc que je voulais dire. Après, un autre détail sur lequel je voulais revenir, c'est une phrase qui est dite « La vie est un rêve dans un rêve ». Voilà, c'est une phrase qu'il dit au début du film, que les deux disent au début du film, lorsqu'ils sont sur la terrasse et qu'ils échangent, et qu'il redira plus tard, lui, quand il sera en réunion. Mais ici, le rêve est un peu un cauchemar, voilà, parce que c'est vraiment ces deux heures assez cauchemardesques quand même, faut avoir le cœur bien accroché. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez bien retranscrit, vu que on a une scène où justement le Dario Argento le dit, quoi, dans la salle de bain, quand elle jette tous ses papiers dans la toilette, il dit tu veux me tuer, c'est un cauchemar, etc. Et donc j'ai bien aimé le fait de rappeler tout ce truc des rêves, du cauchemar, etc. J'ai bien aimé tous ces parallèles qui sont faits entre eux, et c'est plutôt bien abordé, c'est très intéressant. Après, moi j'ai mes petites réserves sur le film, voilà, parce que j'aime beaucoup le cinéma d'Gaspard Noé, j'en ai parlé longuement là dès maintenant, mais j'avais quelques petites réserves sur le film, notamment deux points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est l'infidélité de l'homme. Voilà, on sait qu'il est infidèle, qu'il voit une autre femme qui s'appelle Claire, qui est à la réunion. Je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose dans le récit. Voilà, je sais pas ce que ça veut, j'ai pas compris exactement ce que ça voulait amener. Donc moi ça m'a un peu dérangé. Et aussi on sait que le fils a des problèmes psychologiques, a fait un séjour en HP. Je trouve ça assez sous-exploité. Voilà, c'est pareil, je sais pas exactement où on venait en venir avec ça. Et je trouve ça dommage parce que de la part de Gaspard Noé, qui est un réalisateur qui est assez libre, il y a toujours un soin du détail. Là j'avoue que j'ai pas très bien compris, c'est des choses qui m'ont un peu dérangé. On peut parler de la scène de fin pour terminer, qui est un plan de fin minimaliste mais effrayant, avec des plans de l'appartement vide, voilà, donc vide de tout humain, j'ai envie de dire, mais qui est toujours rempli du matériel, donc des livres, des souvenirs, etc. Et on a l'appartement qui se vide petit à petit, voilà, on vide petit à petit l'appartement, et ça donne un peu une impression de liminal spaces, et ça donne une ambiance assez gênante. Voilà, on est très mal de se dire, voilà, c'est même l'appartement en fait est en train de mourir, et c'est un peu ce que représente la fin du film, voilà, avec l'appartement qui se vide totalement. Et ensuite on sort vers un plan des rues parisiennes, un plan en drone, et on a aussi la même mise en scène que pour les personnages, pour la mort des personnages, avec l'écran qui se blanchit et qui représente la mort du film. Donc c'est la fin du film, et je trouve ça assez magnifique. Voilà. Pour conclure, le film est très éprouvant émotionnellement, on en ressort vraiment accablé, j'ai envie de dire. On a toute une réflexion sur ce qu'est l'humanité dans le film. Moi je pense à une phrase d'Argento encore, qui dit les gens sont pas gentils, les gens sont horribles, et que quelque part le film a toute une vraie réflexion sur l'humanité, sur est-ce qu'on est des êtres bons, est-ce qu'on mérite pas notre sort. Et c'est très bien retranscrit à l'écran, encore une fois, et notamment par ces petites citations aussi, ces petites phrases par-ci par-là que j'aime énormément. Mais après j'ai envie de vous dire que Vortex est un film où ça parle pas beaucoup, en fait il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est un film qui parle beaucoup. Voilà, c'est un film qui en dit beaucoup, de par les actions de ses personnages, de par la mise en scène, de par comment les personnages sont, et ça aussi c'est quelque chose que je trouve très notable. Et c'est fantastique, c'est formidable. Moi aussi, un autre détail que je voudrais relever, c'est ce qui fascine avec le cinéma de Gaspard Noé, c'est qu'on est toujours obligé de parler de ses anciens films. Genre là, on a reparlé d'Irréversible, on a parlé de Lux Eterna, on a parlé de Enter the Void. J'aurais pu reparler de Love, de Seul contre tous. Tous ces films, j'ai l'impression que tous ces films à chaque fois ont un lien. Parler de films somme quand je parlais de Climax, et je le pense toujours. Et je pense que justement, il est arrivé à son paroxysme avec Climax, et qu'aujourd'hui, en fait, il a un peu plus de liberté dans son cinéma. Parce que j'ai l'impression qu'il a achevé tout ce qu'il avait envie d'entreprendre, et que du coup, maintenant, il a envie un peu de faire ce qu'il veut. Et faire ce qu'il veut, bah, pour l'instant, c'est juste magnifique. Lux Eterna, j'étais un peu moins fan. Vortex, voilà, c'est quelque chose qui m'a. Une proposition qui m'a totalement séduite. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que Gaspard Noé remet l'humanité au cœur du film, tout en conservant un aspect esthétique soigné. Et voilà, on avait surtout l'image de Gaspard Noé d'un réalisateur qui est plutôt technique, voilà, qui met en avant les couleurs, la mise en scène. Et là, on a un vrai récit touchant, humaniste, et c'est très important. Et peut-être qu'on aura le droit à un Gaspard Noé changé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était pas facile à enregistrer, c'était pas facile à voir, c'est pas facile à écrire. Voilà, c'est un film assez compliqué, mais c'est un film que je vous encourage tout de même à voir, parce que c'est l'un de mes gros chocs cinéma de cette année pour l'instant. Et je pense que c'est mon film français préféré de l'année pour l'instant, même, je vais pas vous le cacher. Et c'est formidable, Vortex de Gaspard Noé, je vous encourage vraiment à le voir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @tfcedlmlff, c'est les initiales du podcast, mais si vous tapez le nom du podcast Façon c'est de la merde les films français, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Prochain épisode, c'est le 15e, on franchit un nouveau cap, et d'ici là je vous dis ciao, merci à tous de m'écouter, et une bonne soirée à tous, ou une bonne journée bien évidemment.